Imaginons une école pour tous, c'est le titre d'une série documentaire sur l'inclusion, particulièrement l'inclusion scolaire qui est diffusée sur Ami Télé. À compter d'aujourd'hui, une série menée par Sophie Desautels, une journaliste que vous connaissez peut-être puisqu'elle a travaillé longtemps à Radio-Canada. Elle est maintenant retraitée, mais une retraitée quand même active. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Merci d'être là. Vous nous parlez en direct du Nouveau-Brunswick. Dans quelle partie du Nouveau-Brunswick êtes-vous?
Bien, en fait, là, je suis à Moncton, donc qui se trouve dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Alors, les gens peut-être connaissent peut-être un peu mieux le nord qui est plus francophone, mais il y a quand même beaucoup de francophones ici. C'est 30 % de la population dans la région de Moncton, alors où j'ai travaillé d'ailleurs à Radio-Canada pendant 30 ans.
Et Sophie, vous habitez à temps plein au Nouveau-Brunswick?
Oui, c'est ça. J'y suis, en fait. Je suis originaire du Québec, mais ça fait quand même plus de 30 ans que je suis ici. Et c'est ici que j'ai fait ma carrière à Radio-Canada comme journaliste.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, j'ai pris ma retraite, pas anticipée, mais disons, j'aurais pu continuer à travailler. Mais Mathilde, notre fille qui a un diagnostic d'autisme, terminait l'école, on sait, ça finit à 21 ans. Donc, on s'est dit, ben, il faudrait quand même pouvoir trouver des activités, faire des choses avec elle, puisque là, elle n'avait plus l'école pour faire des activités tout au long de la journée. Et on sait comment ça peut être complexe des fois avec des personnes à besoins particuliers une fois que l'école est terminée.
Mm-hmm.
Donc, c'est ce qui m'a amenée à prendre ma retraite de
D'accord.
Radio-Canada et de m'engager dans ce projet de documentaire. Donc, on m'a approchée pour savoir si ça m'intéressait finalement de diriger ce projet-là, de partir sur la route en famille avec Mathilde et mon conjoint Robert, qui est aussi retraité de Radio-Canada.
Robert
Et
Malenfant.
puis, oui, Robert Malenfant, effectivement. Et donc, et puis, ben, on m'a approchée en me disant, ben, t'es journaliste, mais en plus, tu es la maman d'une personne à besoin particulier. Donc, tu as connu le système scolaire, l'inclusion scolaire ou non, parfois, c'est complexe. Ça m'a beaucoup interpellée comme projet parce qu'effectivement, nous, on a connu le système scolaire et les difficultés que ça peut aussi représenter quand on veut que notre enfant puisse bien fonctionner dans un système qui n'est pas toujours adapté pour les besoins particuliers de certains élèves, dont les autistes.
Mathilde, qui a quel âge aujourd'hui? 22, 23 ans?
Oui, c'est ça. Elle vient d'avoir 23 ans cet été. Depuis justement que j'ai pris ma retraite, ben, on avait quand même trouvé des activités pour elle. Mais comme dans beaucoup de provinces, c'est très difficile pour les personnes adultes de trouver soit du travail, soit des activités, soit des centres de jour. On sait que c'est complexe. Honnêtement, au départ, on appréhendait un peu de partir sur la route parce qu'on a quand même fait 25 écoles, garderies, universités, en tout cas institutions scolaires dans ce beau projet là qu'on a fait au Québec et au Nouveau-Brunswick.
Oui. Mais avant d'aller plus loin dans le projet, Sophie, j'étais curieuse de savoir, parce que vous en parlez dans la série, le diagnostic de la condition de Mathilde est arrivé lorsqu'elle avait 4 ans. Et
oui.
À partir de ce moment-là, est-ce que votre vie a complètement été chamboulée, a basculé, ou vous aviez l'intuition que Mathilde avait une condition particulière?
Oui, ben dans le cas de notre fille, en fait, on savait qu'elle avait déjà un retard important là, parce que bon, on a eu à l'âge d'un an, on a su qu'elle faisait de l'épilepsie et elle avait déjà un retard de développement à ce moment-là. Donc pour nous, c'était quand on a eu le diagnostic, c'était quelque chose qu'on cherchait depuis un moment. On avait fait des démarches pour obtenir ce diagnostic-là. On se doutait fortement que c'était ce qu'elle aurait comme diagnostic. Et évidemment, ben, on voulait aussi ce diagnostic parce qu'on avait déjà commencé de l'aide dans le privé. Mais là, on pouvait demander au gouvernement, finalement, d'obtenir des programmes et du personnel pour l'aider au quotidien en garderie puis ensuite à l'école.
D'accord. Parce que vous le dites assez régulièrement dans la série, en tout cas, que le dépistage précoce, c'est important, c'est une des clés de la réussite des personnes en situation de handicap ou des personnes en situation particulière.
Oui, en effet. Parce que souvent, ça permet de faire des demandes d'aide, donc d'aide spécialisée, d'aide d'avoir des budgets pour payer ce personnel-là, de pouvoir avoir des heures supplémentaires en dehors de la garderie et de l'école. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, on avait quand même une agence où il y avait du personnel qui venait à la maison, qui venait en garderie, et c'était en partie subventionné par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Dans chaque province, je pense qu'il existe des programmes, c'est très différent d'une province à l'autre. Donc, c'est sûr que dans la série, on n'aborde pas ces différences-là, mais on parle plutôt de quand on accueille des personnes à besoin, des enfants à besoin particuliers, comment on fait pour réaliser une inclusion? Comment on fait pour que ça fonctionne? Donc, c'est un peu ça qui. Puis bon, nous, on a quand même connu dans le parcours de Mathilde différentes écoles, différents personnels, différentes approches. On a même déménagé au Québec à un moment donné pour essayer la classe spécialisée en autisme. On n'aimait pas beaucoup la méthode qui était utilisée au Nouveau-Brunswick, qui est la méthode ABA, qui est behavioriste et tout ça. Donc, on a beaucoup exploré, on s'est beaucoup impliqué comme parents auprès d'elle, malgré tout ça, avec la série, ça nous a fait réaliser qu'elle a pas toujours vécu de l'inclusion, mais plutôt de l'intégration. Et je pense que c'est important qu'on comprenne c'est quoi la
Oui,
différence.
dites-la nous la différence.
Mais en fait, l'intégration, c'est qu'on demande à l'élève de s'adapter à son milieu. Donc, on demande à l'élève d'être en classe avec parfois de l'aide, des assistances et tout ça. Ça peut être des spécialistes aussi. Mais si l'enfant est sorti de la classe, bon, il va voir l'ergothérapeute ou le physiothérapeute ou il va avoir des programmes et tout ça. Tandis que l'inclusion, c'est vraiment de penser comme enseignant et comme assistant à faire en sorte que l'élève soit bien dans la classe et qu'il soit intégré. Vraiment, l'intégration, c'est ça. C'est pas dire, ah, il est différent, il est avec son assistant dans un coin de la classe et il fait ses choses tout seul dans son coin.
Donc, c'est à
Donc,
l'environnement que revient le rôle de s'adapter, et non le contraire.
exactement,
Et
exactement. C'est
non, la
l'environnement.
responsabilité n'appartient pas nécessairement à la personne à besoin particulier ni à sa famille.
Exactement. Et dans tout ça, c'est sûr que les gens peuvent penser, ah, mais ça demande plus de ressources, c'est plus compliqué, mais non, c'est ce qu'on découvre avec la série aussi, c'est comment avec les mêmes ressources, on arrive à mettre sur pied des programmes ou un environnement qui permet l'inclusion de l'élève avec toutes sortes de projets différents, avec du personnel qui est spécialisé. C'est une philosophie finalement, davantage qu'une méthode.
Oui, vous le dites dans la série que le manque de ressources n'empêche pas nécessairement l'accueil des personnes aux besoins particuliers. Et c'est peut-être encore plus sain comme milieu parce que ça fait en sorte que ces enfants-là ne sont pas ostracisés par certaines personnes, par d'autres personnes qui
Oui,
pourraient les
absolument.
regarder d'un drôle
Oui.
d'air. Ah, oh, cette personne-là,
Mais
elle
c'est
marche pas
ça.
comme moi, donc je ne lui parlerai pas. Mais de toute façon, les enfants, eux, ne voient pas la différence, mais.
Exactement.
Ouais.
C'est exactement ça. C'est que souvent, même en préscolaire, puis au début du primaire, quand on demande aux élèves, ben, qu'est-ce qu'il y a de différent, ton ami tel ou ta compagne de classe? Ben, ils disent, ah, oh, ben, lui, il aime pas le spaghetti, puis moi, j'aime ça, mais tu
Oui.
sais, ils ne savent
C'est
pas
pas
du
elle,
tout
elle
voir la
entend
différence.
pas ou elle apporte des
Non,
lunettes parce qu'elle
c'est
voit
ça.
rien. Ouais.
Ou elle est autiste, ou. Donc, la différenciation, elle se fait justement par le fait qu'on les pointe comme étant différents. Puis bon, en grandissant, on remarque un peu plus les différences. Mais sauf que aujourd'hui, quand une inclusion réussit, les élèves, tout au long de leur parcours, que ce soit préscolaire, primaire ou secondaire, ils intègrent ces élèves-là et ils les acceptent au même titre que n'importe quel autre élève. Donc, c'est ça aussi une inclusion réussie.
Ouais.
Et la série, je pense que ce que ça donne, c'est non seulement bon, d'expliquer ce que c'est une inclusion, mais aussi de donner des exemples qui sont vraiment intéressants, qui pourraient inspirer d'autres enseignants, d'autres directions d'école, de s'inspirer de ces cas-là et de dire, ben, nous aussi, on pourrait faire de l'inclusion.
Parlez-nous il y en a plein là, de rencontres que vous avez faites, que votre fille a faites, des rencontres qui vous ont marqué, qui vous ont étonné parce que la série fourmille d'intervenants, d'éducateurs, d'éducatrices, de parents, de jeunes autistes, des jeunes handicapés aussi. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont que vous n'oublierez jamais?
On m'a souvent posé la question,
Ouais.
honnêtement, en entrevue, et j'ai beaucoup de difficulté à choisir un ou deux exemples parce que, honnêtement, ils sont très différents les uns des autres. Il y a différents niveaux scolaires. Mais bon, si j'essaie de penser à ce qui m'a peut-être m'a particulièrement touchée, il y a entre autres ce petit garçon qui a eu un accident de la route, s'est retrouvée en fauteuil roulant et a quand même été à l'extérieur de l'école, à l'hôpital pendant une longue période. Et quand il a réintégré l'école, comme il était un grand sportif et qu'il vivait pour le sport, puis que l'école, c'était un peu secondaire pour lui, il allait surtout à l'école, il aimait l'école pour le sport. Ils ont décidé de créer une équipe de basketball en fauteuil roulant pour lui, donc c'était au primaire. Ils l'ont accueilli à sa première journée d'école, le personnel et tout ça en fauteuil roulant. Donc, c'était très, très
Je
touchant
comprends,
d'entendre
ouais.
cette histoire-là, mais aussi de montrer que c'est possible parce que là, ça fait quand même 2 ans qu'il a réintégré l'école et l'équipe existe encore. Et donc, ça a permis à cet enfant-là qui ne voulait plus retourner à l'école, finalement, d'avoir une raison de retourner et d'être accepté, puis de continuer à jouer avec ses amis. Donc, je trouvais que c'était un bel exemple.
Oui, il y a beaucoup de belles histoires, beaucoup de belles
Ouais, exact.
rencontres. Je pense à Ophélie. Je trouve que vous faites preuve beaucoup d'empathie. C'est naturel chez vous?
Je sais pas,
Mais en
c'est
tout cas,
difficile
vous
pour moi.
avez, vous entrez en contact tout à fait naturellement, mais avec tout le monde, et particulièrement avec les personnes handicapées. Vous les regardez pas de haut. On sent aucunement la pitié. C'est juste une rencontre où il y a plein d'amour et de respect, là.
Ben, c'est sûr qu'en ayant un enfant à besoin particulier, on est peut-être plus habitué et
Ouais.
sensible à ça. Mais aussi, je dois avouer que le réalisateur a beaucoup aidé Julien Cadieux.
Ah
C'est
oui.
quelqu'un qui est très humain. Et dans tout ça, il y a Mathilde aussi, qui a joué un grand
Ben oui, qui
rôle
est comme
pour
la
briser la...
co-animatrice d'une certaine façon.
Ben oui, puis c'était pas prévu comme ça. On savait pas comment elle allait réagir. On connaît notre fille, mais à un moment donné, on se disait, ben, peut-être qu'elle va refuser parce que pour elle, c'était beaucoup de changements d'horaire, beaucoup de changements de gens qu'elle connaît pas et tout ça. Elle adore les gens. Mais on se disait à un moment donné qu'elle allait peut-être mal réagir à tous ces changements-là. Mais son point d'ancrage, c'était vraiment l'équipe de tournage et, bon, le fait de faire son horaire tous les jours, d'avoir une certaine routine. Il fallait aller dîner avec l'équipe tous les jours. Pour elle, c'était son point d'ancrage. Mais quand elle arrivait dans une école, ben, elle savait déjà qui elle allait rencontrer, comment il s'appelait, et elle a une bonne mémoire. Donc, elle brisait la glace au départ. Elle aidait énormément à ce que ça soit beaucoup plus facile pour d'être toute une équipe de tournage, mais que tout le monde se sente à l'aise. Et finalement, sa participation a été quand même assez importante.
Oui.
Et c'est aussi grâce à Julien Cadieux, le réalisateur, qui a une grande sensibilité et
Ça
qui, lui,
paraît.
a... Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, parce que moi, comme journaliste, j'avais un peu une retenue, il faut dire, au départ, dans la formation que j'ai de pas trop être familière, disons.
Oui, oui,
Mais
oui.
disons, donc, il y a eu un travail à faire quand même de ma part
Est-ce
dans
que
ce
c'est la
sens-là.
première fois que vous présentiez votre fille au grand public?
Je dirais que nous, dans notre communauté, bon, c'est pas une grande ville, donc les gens se connaissent beaucoup. La communauté francophone se connaît bien, et nous, on participe à beaucoup d'activités culturelles et tout ça. Donc Mathilde, elle est même plus connue que nous. Tout le monde la connaît.
Elle est populaire, mais elle est très
Oui,
attachante et on
ben
sent
c'est
qu'elle
ça,
est à
très
l'aise devant la
sociable.
caméra.
Ouais.
Et donc, c'est la première fois que vous travaillez avec Mathilde, que vous
Oui.
tourniez pour la
Oui,
télévision
oui.
ce documentaire-là. C'est une première. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous l'avez dit quand même, là, mais elle, est-ce qu'elle vous a dit qu'est-ce que ça lui avait apporté?
Ben, disons qu'elle n'est peut-être pas en mesure d'exprimer ce que ça lui
Ouais.
a apporté, mais on sait qu'elle était à l'aise et qu'elle a beaucoup aimé. Puis nous, on a vu peut-être une petite maturité là arriver avec cette période où on lui a demandé des choses. Tu sais, c'est pas juste ses parents, c'était une équipe, le réalisateur qui lui demandait de faire telle chose, d'aller rencontrer, d'essayer par exemple une activité en fauteuil roulant, tout ça. Si la demande, moi je disais, ben demande-lui, parce que si ça vient de ses parents, elle va dire non. Tu sais. C'est sûr que donc, le contexte a aidé et bon, avec ça, je pense que ça lui a donné un peu confiance en elle. Puis, elle adore les gens, puis elle adore aller rencontrer le côté social.
Elle a
Pour
beaucoup
elle, c'est...
d'humour.
Bon, oui, c'est ça, elle aime rire, elle est souriante.
Oui, elle vous
Pas
demandait,
toujours,
as-tu bien fait ça? À un
quand...
moment donné, elle vous demande, si, as-tu bien fait ça?
Oui, c'est ça. C'est vrai.
C'est
Oui,
rigolo.
ce que moi, je lui demanderais d'habitude.
Oui, c'est ça. Elle répète ce qu'elle a déjà entendu.
Oui,
Vous êtes
c'est
un
ça.
exemple. Votre série, donc, Imaginons une école pour tous, montre qu'il y a encore du chemin à faire pour intégrer dans les différentes institutions scolaires les personnes qui ont des besoins particuliers, intégrer, puis on parlait
Surtout inclure.
inclure, oui, mais c'est pas partout pareil. Et on apprend, moi, je savais pas que le Nouveau-Brunswick est en avance au chapitre de l'inclusion par rapport au Québec.
Oui, a été un précurseur. Ça, c'est
Ouais.
absolument vrai et c'est reconnu même à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont venus d'un peu partout à l'international pour voir comment on faisait justement parce que c'était nouveau dans les années 60, 70 et ça part d'une loi et d'un désir de dire, ben, on va faire de l'intégration, on va faire de l'inclusion scolaire. Après avoir fait de l'intégration, on voulait aller plus loin et il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs provinces canadiennes qui font de l'inclusion et de différentes manières. Mais bon, au Québec, par exemple, c'est un peu encore à deux niveaux. C'est un système à deux niveaux. Parce que c'est pas encore suffisamment dans la loi et dans les règlements que ça soit obligatoire. Mais bon, ce qu'on entend quand même pour le Nouveau-Brunswick, c'est que bon, ils sont en train de se faire rattraper quand même par d'autres provinces, puis il y a encore du progrès à faire aussi.
Imaginons une école pour tous, c'est une série qui est riche en informations, en humanité. À qui elle est destinée, diriez-vous?
Je dirais à tout le monde, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit passés par le système scolaire, soit qui ont des enfants qui sont dans le système scolaire, le personnel enseignant, tout le personnel scolaire, évidemment. Mais je trouve que la série est quand même accessible à tous. Ça s'écoute bien. C'est pas, il y a des gens qui me disaient qu'ils avaient peur que ce soit trop technique ou complexe. Je pense qu'on peut bien comprendre les exemples qu'on présente, peu importe notre formation de base. Donc, à tout le monde, je dirais à tous.
Et vous êtes une journaliste à la retraite. Qu'est-ce qui vous attend pour la suite? Est-ce que vous avez d'autres envies, d'autres projets en tête?
Ben, disons qu'il y a des offres qui arrivent, mais rien encore de précis, parce que ça a quand même été, je dirais, une année presque complète de travail à temps plein. Avec Mathilde qui est quand même avec nous une bonne partie du temps. Puis même si on a un peu d'aide, de répit et tout ça, je dois avouer que on a eu besoin d'une période un peu de vacances importantes là, pour sortir de cette année parce que c'est aussi accompagné d'un balado
Oui, de
de
six
six
épisodes, oui.
épisodes qui n'est pas encore disponible, mais qui va l'être à l'automne.
Sur audio?
Oui, sur audio et Spotify. Donc, ça, c'est les démarches sont en cours. Malheureusement, c'est pas encore disponible. Mais ça a été une autre portion de travail à temps plein pour réaliser ce balado, de le réaliser. Puis c'est mon conjoint Robert, le papa de Mathilde, Robert Malenfant, qui a fait le montage. Donc, on a travaillé plusieurs mois là-dessus. Alors
Ah
là,
oui.
on est en train de récupérer de ça, mais c'est sûr que ça a été une expérience absolument très enrichissante. Et comme journaliste aussi, j'ai été comblée parce que là, on peut aller plus en profondeur dans les sujets qu'on traite plutôt que dans le quotidien,
Un grand
dans la nouvelle.
luxe.
Oui,
Ouais.
absolument. Et c'était absolument passionnant. Tous les gens qu'on a rencontrés, c'est des gens extraordinaires, passionnés, intéressants. Donc, ça a été une super expérience que je referai avec grand plaisir.
Alors, j'invite à mon tour les gens à découvrir cette série sur Ami Télé, disponible aussi sur TFO, je crois. Hein? C'est présenté en collaboration
Oui,
avec
absolument.
TFO. Et
Oui.
Ami Télé, c'est à compter d'aujourd'hui même, le 27 août. Imaginons une école pour tous. C'est une série menée par Sophie Desautels et réalisée par Julien Cadieux. Du très bon travail. Et vous saluerez Mathilde de notre part. On va lui offrir la chanson. Elle parle de sa chanson préférée. Là, je ne sais pas si elle a changé depuis le temps, là, mais elle parle de jacuzzi de Radio-Radio. On va se laisser avec cette chanson-là.
Ah, c'est génial. Je vais lui faire écouter ça.
Merci, Sophie Desautels, et bravo pour le super travail, une série documentaire importante.
Merci beaucoup et merci à vous pour l'entrevue.